rendre ce culte au Seigneur, c'est... J'étais touché par ces paroles de Deutéronome, ça sera un peu dans mon message. Notre Dieu est aussi un Dieu jaloux. On a eu vraiment des beaux chants sur le Créateur, sur notre Sauveur. Et ce matin, je vais commencer par vous dire un petit peu comment j'en suis venu à apporter ce message, dont le titre, cela, je vous le redirai, mais ce sera « Nul autre nom, un seul médiateur ». Comment je suis arrivé, à travers les circonstances que j'ai vécues cette semaine, à ce message. La semaine dernière, Jean-Luc nous a parlé des saints, et soulignant d'ailleurs, les saints sont ceux que Dieu déclare saints et qu'il a rendus saints par sa justice et la sanctification, puisque tout est en Jésus-Christ. Et il a souligné combien, je crois que c'était important qu'il rappelle ça, combien avec l'histoire de l'Église, il ne faut pas négliger l'histoire de l'Église, nous ne sommes pas une génération spontanée de croyants. Nous avons été précédés par des pères. Il y a eu, c'est vrai, comme dans beaucoup d'œuvres qui commencent bien, il y a eu des dérives. Il soulignait combien l'Église catholique romaine, puisque c'est la plus ancienne dénomination, on pourrait dire ça comme ça, évidemment c'est souvent celle qui a ramassé au fil du temps des choses... qui se sont écartés du pur lait de la parole de Dieu. Et cette notion de saint a été, on peut dire, carrément dévoyée. La réunion de prière mardi, nous avons échangé, nous avons continué d'échanger, c'est Jean-Luc qui a animé cette réunion, autour de ce sujet. Et il y avait toute la question de l'idolâtrie de mes méditations de la semaine, m'avait touché par un passage de l'Écriture concernant les questions de l'idolâtrie. Dans Osée 4, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et il se prostitue loin de leur Dieu. Et puis un peu plus loin, dans Osée 5, au verset 2, par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et ça m'a touché. Et nous étions avec un couple cette semaine, on a prié pour des situations de gens comme ça qui, à force d'idolâtrie, et j'y reviendrai, l'idolâtrie est un esprit de prostitution, peut conduire d'ailleurs tout simplement à l'adultère et à l'impureté sexuelle, bon, c'est un autre sujet. Mais il y a leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Tout homme est séparé par le péché, c'est vrai, mais l'idolâtrie renforce. Mais un voile tel que même celui qui cherche ne trouve plus. Il est dans la confusion, il est égaré. C'est comme s'il n'avait plus accès même à la parole de Dieu. Quand il la lit, elle est fermée. Et nous avons prié dans ce sens-là, parce que devant de tels versets, eh bien, je crois que le peuple de Dieu a le devoir, lui, d'intercéder pour ceux pour lesquels vraiment le voile est épais et a besoin d'être ôté. Et c'est l'action surnaturelle de Dieu. Et je voudrais vous témoigner, à titre personnel, je ne vais pas donner tout mon témoignage, mais je me suis converti à un âge, à 48 ans, hein, j'en ai 64. Et j'ai été extrêmement engagé toute ma vie, précisément dans l'Église catholique romaine, avec, je crois, sincérité. Et il est clair que des liens, enfin, je ne vous donne pas tous les détails, j'ai participé à tout ce qui pouvait être comme culte idolâtre. Et voyez-vous, cette semaine, un matin, je me lève, et il y avait une tristesse sur moi au lever. Quelque chose de lourd, je ne sais pas pourquoi. Et à un moment, une pensée vient. Une pensée me vient et me rappelle les cultes que je rendais agenouillés devant des statues. étant plus jeune, et encore, si vous visitez les églises, vous voyez un tas de gens qui font des dévotions à Notre-Dame de ceci, à Notre-Dame de cela, à Notre-Dame du Pilier, à la Vierge Noire, etc., 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 et je ne sais quel pardon. Et me vient que, mais je pratiquais cela, et la pensée continue. Mais dans le fond, tu avais comme une consolation, tu étais bien dans ces ambiances, etc. D'un coup, vous allez demander où j'en viens. D'un coup, je réalise c'est le 15 août. Alors, ça ne vous dit sans doute rien, le 15 août. Sauf que le 15 août, c'est une fête qui est célébrée, une fête qui célèbre finalement la Reine du Ciel, la Vierge Marie, dans tout ce que les dogmes ont donné au fil de l'histoire, c'est-à-dire sa virginité éternelle, ce qui est faux, et le culte de l'Assomption, à savoir que Marie aurait été enlevée quelque part, un peu comme Jésus, dont vous ne cherchez pas dans vos Bibles, vous ne le trouverez pas. Ceci étant, je tiens à souligner que cette pratique qui date depuis des siècles a été validée, si j'ose dire, par le magistère pontifical de Pie XII, pas au XVe siècle, pas au IIIe siècle, en 1950. D'un seul coup, je réalise ça. Et mon pied allait chanceler, comme dit Asaph dans le psaume 73. Et d'un coup, je réalise que je vis une attaque de l'adversaire. Et mon péché d'égoïsme, de recherche de bien-être, à travers, finalement, une recherche de sensation et quelque chose de mystique, de bien-être, une recherche de fausse consolation, est dénoncé à cet instant par Dieu. Vous savez, je vous décris ça en quelques mots, mais c'est beaucoup plus rapide, parce que je pense que quand le Saint-Esprit agit, il y a, je ne sais pas quel mot employer, comme une fulgurance, vous avez tout d'un coup qui se dévoile. Vous avez votre péché qui est dénoncé, et la grâce, et la vérité qui vient. Le Seigneur, à ce moment, me fait grâce, et me montre ce qui se passe, et je reçois cette séquence comme une vraie libération et un encouragement à saisir la parole par la foi, et aussi à ne pas aller, et ça j'insiste là-dessus, ni en deçà, ni au-delà de ce que dit la parole de Dieu qui nous a été transmise, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et à cet instant, un chant me vient, nul autre nom, d'où le titre de mon message, nul autre nom que le nom de Jésus, qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Et cette autre pensée, il est le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ. Nous prendrons ce chant pour finir le culte. Les choses m'ont été confirmées au fil de la semaine, puisque un soir dans la semaine, nous échangeions avec des frères et sœurs. Et une sœur nous confiait que suite à des paroles de jugement, elle avait été ébranlée dans sa foi. Elle avait dit, est-ce que tu as ceci, est-ce que tu as cela, dans son église, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait... Alors, ça ne va pas. Elle a été ébranlée. Et nous avions, avec Marie-Annick, une sœur fidèle, nous avions remarqué depuis quelque temps comme un voile, quelque chose, vous savez, on voit ça, hein, un voile. Une femme rayonnante, et là, un voile. Et le Seigneur a fait qu'elle a pu en parler. Elle a dit que, suite à ça, elle avait du mal à prier et à lire et à méditer la parole. Jusqu'à ce que, partageant avec des collègues de travail, un moment de pause, un peu des plaisanteries, etc., d'un seul coup, elle a compris qu'elle pouvait être embarquée aussi. Oh, doucement comme ça, mais elle pouvait être embarquée loin du Seigneur. Nous avons alors partagé ensemble la parole de Dieu en lisant ensemble, et je vous le lis, 1 Corinthiens 15. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Jean-Luc a pris pour le temps de la Sainte-Cène un passage dans Matthieu 26, 26, qui dit la même chose, qui nous pose les fondements de la foi. Prenez ce pain, il est offert. Prenez ce vin, je n'en boirai plus désormais jusqu'à ce que je boive avec vous dans le royaume. Il y a, bon, on pourrait passer une heure là-dessus. Tout est annoncé, à la fois ce qui va se passer, et je vous précéderai en Galilée. Donc le futur immédiat que Jésus avait déjà annoncé, mais aussi le temps de son retour. C'est extraordinaire. Notre foi repose sur, j'allais dire, pas 250 chapitres, il y a des faits centraux dans la Bible, et il nous faut nous les rappeler. Donc ces différentes circonstances m'ont convaincu qu'il est nécessaire pour nous d'approfondir notre connaissance des bases de notre foi qui repose sur Christ, la pierre angulaire, afin d'être équipés lorsque les flèches de l'adversaire viennent nous surprendre. Et nous sommes dans des temps où les flèches de l'adversaire ne manquent pas. Alors, les flèches, c'est une chose, et il y a l'atmosphère générale qui atteint aujourd'hui un paroxysme. Jean a dit qu'il y avait plusieurs antéchrists, mais le système, l'esprit de l'antéchrist est notre environnement aujourd'hui. Je ne vais pas développer ça ce matin. Même les païens s'en rendent bien compte. Mais là, je m'adresse à mes frères et sœurs en Christ et à ceux qui, peut-être aujourd'hui, ici, cherchent la vérité. Alors, je veux, avec l'aide du Seigneur, leur annoncer, en m'appuyant sur la parole, les choses fondamentales du salut. Donc le titre de mon message, peut-être été un peu long dans cette introduction, mais je crois que c'est important, « Nul autre nom, un seul médiateur ». Dans 1 Timothée 2, 5, verset 5, il y dit ceci, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel, dit Paul, j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Pourquoi un médiateur? Nous allons lire quelques passages, enfin essentiellement deux passages, dans Ésaïe 6 et Exode 33. Ésaïe 6, si vous avez vos Bibles, nous pouvons lire Ésaïe 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » L'homme ne peut s'approcher de Dieu par lui-même ou à son initiative, car l'homme est pécheur. Même Ésaïe, même ce prophète, dans son ministère. Exode 33, verset 18, un autre passage, je ne vais pas multiplier parce que j'ai beaucoup de choses à lire avec vous ce matin. Exode 33, verset 18. Le peuple vient de se prostituer, le peuple hébreu vient de se prostituer en fabriquant un veau d'or, considérant que Moïse tardait un peu sur la montagne. Ce Moïse, nous ne le connaissons même pas, il tarde en plus. Alors faisons-nous une idole. Et Dieu vient de déclarer que ce peuple, il va l'anéantir. Moïse intercède et Dieu se repent du mal qu'il envisageait. Moïse est un peu découragé, il faut bien le dire, ce n'est pas facile de conduire ce peuple hébreu qui a la nuque raide. Et il supplie le Seigneur. Verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse, ce conducteur, qui déjà t'avançait dans son ministère avec le Seigneur, tu ne pourras pas voir ma face. Et encore Paul, dans la première lettre à Timothée, nous parle de celui qui décidera du retour des seigneurs comme le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. L'homme, à cause du péché, ne peut s'approcher de Dieu. La connaissance de Dieu ne peut être immédiate. Elle a besoin d'être médiatisée. C'est pourquoi toute tentative de contact direct avec le tout autre, autrement que par le médiateur qu'il a désigné lui-même, conduit dans des voies de ténèbres. Or, je ne veux pas dire tous ici, mais un jour ou l'autre, nous avons peut-être touché à ces voies. Car la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme et tout homme cherche. Mais il peut chercher soit par un accès direct, par des techniques diverses, faire le vide en soi pour accueillir des énergies, soit les recherches pour atteindre le monde spirituel et obtenir une puissance en se dissociant de son corps ou autre technique. Je ne m'étends pas, nous pourrions le faire, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça se multiplie. Il y a une mondialisation des techniques occultes et pour atteindre le monde spirituel qui sont consternantes. Donc soit l'accès direct par ces techniques, faire le vide en soi et on va être rempli, et certainement on sera rempli de quelque chose. Mais je peux vous garantir une chose, ce ne sera pas du Saint-Esprit de Dieu. Soit le recours à des médiateurs humains, des médiums, des gourous, des sorciers, des féticheurs, le marabout qui est censé, nous parlions de réconciliation, qui souvent intervient pour des réconciliations individuelles ou entre des factions. Ces hommes non seulement ne peuvent rien, mais celui qui met sa confiance dans de telles choses s'engage sur des voies de ténèbres, voire sur des voies qui mènent à la mort. Il faut être clair et net. Soit encore une quête intellectuelle et philosophique en dehors de celui qui est la sagesse et qui a été fait sagesse pour nous. Cette voie est très répandue aujourd'hui, c'est toutes les techniques du New Age, de la pensée positive, etc., etc., etc. Je voudrais souligner ce matin que le fait d'emprunter ces voies dont il peut y avoir certains effets bénéfiques dans un premier temps, même si on l'a fait dans l'ignorance des conséquences, conduit néanmoins à se placer sous la domination de puissances spirituelles mauvaises qui mènent à la confusion. Car ce faisant, l'homme met sa confiance dans un médiateur non agréé. Alors peut-être vous n'étiez pas au courant jusqu'à cet instant, mais maintenant vous l'êtes. Nous avons une responsabilité. Je m'adresse aux croyants qui ont pu toucher à ces choses. Certains s'en sont repentis lors de la conversion, parce qu'à la conversion, il y a un travail initial. Le Saint-Esprit vient nous visiter, fait du ménage, mais force est de constater que des choses demeurent parfois, que nous n'avons pas vues, pour une raison ou pour une autre. Je crois que nous avons à nous remettre honnêtement devant Dieu, et confesser ces choses. Je rappelle que même, parce que souvent j'ai entendu des gens, ah mais j'étais pas au courant, j'étais sincère. On a grande difficulté avec des gens, par exemple, qui ont un don de guérison, mais qui a été transmis au niveau humain, ou qui ont utilisé, mais on dit, mais ça, je fais pas de mal. Sauf que je fais appel à une puissance qui n'est pas celui, qui n'est pas l'Éternel qui te guérit, mais qui est un autre. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Les choses obtenues par d'autres voies, le diable nous les fait payer un jour, parce que lui, il ne rase pas gratis. Je vous rappelle donc ces paroles d'Osée, Osée 4, « Mon peuple consulte son bois et son bâton, c'est lui qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. » L'homme ne peut avoir de relation avec Dieu que par un seul moyen, Jésus-Christ, le seul médiateur, Dieu fait homme. En effet, l'homme ne pouvant s'approcher de Dieu par sa propre volonté, Dieu, dans son amour pour sa création, et en particulier pour l'homme créé à son image, va prendre l'initiative de rejoindre sa créature en envoyant des cieux son Fils incréé, celui qui est l'empreinte de sa personne, Jésus-Christ. Je voudrais qu'on regarde à travers des textes, des choses fondamentales, mais qui aujourd'hui, y compris dans certains milieux qui disent se référer à la Bible, est remise en cause. La parfaite divinité et la parfaite humanité de Jésus-Christ. Alors vous allez dire, c'est la base. Ah oui. Eh bien écoutez, c'est pas si simple que ça. Je voudrais souligner ce matin que ce médiateur, il est vrai Dieu, il est vrai homme. Vrai Dieu, totalement Dieu, vrai homme, totalement homme. De nombreux textes manifestent, soit directement, soit par l'opposition que cela a suscité, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il en est même en même temps pleinement homme, connaissant tout ce que peut connaître un homme, en termes de joie, de souffrance, de tentation, sans toutefois y succomber. Alors, je vais prendre un certain nombre de textes. Je vous demande de me suivre. Il est parfois difficile de scinder dans ces textes sur le sujet les deux aspects de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ sont parfois pris dans les mêmes textes. Je voudrais qu'on lise dans Proverbe 8, verset 22, un texte peut-être qui est pas tellement connu, en tout cas sur lequel on prêche peu, dans Proverbe 8, verset 22. Je vous invite à lire ce livre des Proverbes, il est particulièrement riche, je le rappelle souvent aux jeunes gens, mais il est valable pour tous. Il renferme de nombreux conseils extrêmement pratiques et des choses aussi très spirituelles. Dans Proverbe 8, au verset 22, il est question de la sagesse depuis le début de ce chapitre. « L'Éternel, dit la sagesse, m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Nous avons là une description du Fils bien-aimé, celui qui est sagesse de Jésus. Il est avant que toute chose ait été créée. Même les savants aujourd'hui reconnaissent, ne se satisfont plus du Big Bang. Ils sont en train de découvrir qu'il y a bien un commencement. Et nous parlons là de celui qui, avec le Père, était avant le commencement, Jésus-Christ, tandis que l'Esprit planait au-dessus des eaux. Il était là, avant toute chose. Le Fils enfanté, incréé, qui était avec le Père, avant le commencement. Jean 1, verset 1, reprend un peu cette pensée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Personne, un peu plus loin dans ce chapitre premier, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Parfaite divinité de Jésus-Christ qui nous est annoncée dès Jean 1. Jean 5, 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, écoutez bien, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils voulaient, ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Parfaite divinité de Jésus-Christ. Les religieux l'avaient bien compris, qu'ils avaient en face d'eux le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Hébreux 1, je vous invite à lire au moins les deux premiers chapitres d'Hébreux. On n'a pas le temps ce matin, mais on va lire quelques versets. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par nos pères, à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils » et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, l'incarnation, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et encore, auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Divinité de Jésus-Christ. Je voudrais encore poursuivre en regardant le cheminement de Pierre. Nous aimons beaucoup Pierre dans son cheminement. Depuis sa première rencontre avec Jésus jusqu'à la maturité dans son ministère, dans sa compréhension de l'humanité, de la divinité de son Sauveur et Seigneur. Dans Luc 5, au verset 8, c'est le récit de la pêche miraculeuse, une des premières rencontres. Il nous est dit, donc ils ont été obligés de ramener deux barques, il y avait beaucoup de poissons à ramener. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Avez-vous remarqué que nous trouvons la même réaction que lorsqu'Ésaïe contemple dans sa vision la gloire de Dieu ? Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, au milieu d'une nation dont les lèvres sont impures. Premier contact de Pierre avec Jésus-Christ, avec la divinité de Jésus-Christ. Et puis il va avancer, Matthieu 16, verset 16, « Et vous, quand Jésus leur demande, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ça claque, ça vient d'en haut, c'est la révélation. Et lors de la Pentecôte, ce discours merveilleux, Actes 2, verset 32, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. » Nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. C'est lui, Jésus. Même personne de la Trinité, même si ce mot n'est pas dans la Bible, qui baptise du Saint-Esprit. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ce verset que nous avons repris tout à l'heure est validé. Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confirme la signification de ce verset. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Par ces paroles, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confirme la messianité de Jésus. Sa divinité, le Seigneur, a dit à mon Seigneur, et son élévation et sa seigneurie, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tous tes ennemis, de face de tes ennemis, tes marchepieds. Sa désignation par Dieu, comme étant celui qui viendra juger le monde et rétablir le royaume de Dieu lors de sa seconde venue, cette fois-ci en gloire, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce Jésus est bien l'envoyé de Dieu pour délivrer et sauver non seulement Israël, mais tout homme. Divinité, parfaite divinité de Jésus-Christ, parfaite humanité, Galates 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ésaïe 9, verset 6, prophétiquement, car un enfant nous est né, oui, c'est bien un enfant, ce petit Jésus, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parfaite humanité, parfaite divinité de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui a été fait Seigneur. Encore, un dernier passage sur cet aspect, Romains 1, verset 1, Paul, dans l'introduction de l'épître de Paul, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. Si j'enlève ce commentaire au milieu, enfin cette précision au milieu, l'évangile de Dieu qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, la divinité est rassemblée pour attester que le plan du salut est accompli. Le Père envoie le Fils, lui donne l'onction de l'Esprit Saint. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il a tous les attributs pour accomplir son œuvre de médiateur. En effet, la question à résoudre, et je passe à l'œuvre de ce médiateur, la question à résoudre entre Dieu et l'homme peut être exprimée à travers ce verset que nous aimons bien, mais que des fois nous n'allons pas jusqu'au bout. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Amen, alléluia. Qui pardonne l'iniquité, qui pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Merci Seigneur, pas jusqu'à la millième. Voilà le problème que le médiateur a à résoudre. Un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui a créé l'homme, merveilleuse créature, a un problème avec son peuple. Il y a un conflit qui est là. Et Dieu est aussi saint. Et il ne tient pas, retenez cette expression, il ne tient pas le coupable pour innocent. Ce que l'on aime bien faire aujourd'hui. C'est pas très merchandising cette affaire. Mais c'est ainsi. Devant cette situation, la divinité a résolu dans son conseil d'envoyer le Fils descendre sur la terre en vue de prendre la place, de représenter en quelque sorte l'humanité pécheresse en lui-même pour subir à sa place la condamnation que méritaient nos fautes. Il y a comme substitution, substitution pénale. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est donc en tant qu'homme que Jésus exerçait son ministère, vivant comme un homme, souffrant comme un homme, ne cessant d'être Dieu, mais ayant renoncé pour un temps à utiliser certains de ses attributs divins. Rappelons-nous Philippiens, il n'a pas revendiqué son égalité avec le Père. Ça veut dire qu'il est l'égal du Père, égal en dignité, égal en divinité, égal en puissance, égal en éternité, égal en omniscience, égal en omnipotence, égal en omniprésence. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, mais n'a pas revendiqué son égalité, mais il s'est humilié. La terrible descente du Fils de Dieu jusqu'aux enfers, à notre place. Voilà l'œuvre du médiateur, une mission qu'il incarne. Il a librement choisi et accepté de se soumettre dans sa condition humaine, à la volonté du Père. C'est un thème que je développe assez souvent. Nous voyons, à Gethsémané, Jésus avait une volonté propre. Il nous est dit dans Hébreux également que bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par la souffrance. Et il n'avait pas les obstacles que nous avons, nous. Alors, acceptons d'apprendre cette obéissance par la souffrance. Cela n'est possible que si nous croyons effectivement que le médiateur a fait cette œuvre et que ce médiateur, il vit en nous aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas possible. Jésus manifeste dès le début de son ministère son rôle de médiateur entre le ciel et la terre en annonçant à Nathanaël, qui vient de le reconnaître comme le Fils de Dieu, On parle souvent de Pierre qui a reconnu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », mais Nathanaël, sans doute plus tôt, a dit « Tu es le Fils de Dieu ». Vous savez, Nathanaël, voilà un Israélien dans lequel il n'y a point de fraude. Et quand Nathanaël a confessé, finalement, la divinité de Jésus-Christ, Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ». Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Le médiateur, frères et sœurs, va faire, j'ai peine à employer cette expression, mais je voudrais pas, c'est tellement solennel, mais il va faire des navettes entre le ciel et la terre pour réouvrir le chemin. Effectivement, si l'on considère ce qui s'est passé, cette parole-là de Jésus, elle est prophétique. Elle annonce vraiment sa mission. Et effectivement, si l'on considère ce qui s'est passé, les anges, ces esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, selon Hébreux, n'ont cessé d'intervenir pour l'accomplissement de la mission du médiateur, de l'accompagner dans ses allers-retours entre la partie offensée, le Dieu créateur, le Dieu d'amour, et les coupables, jusqu'à la réconciliation accomplie par son intermédiaire. Quelques exemples à l'incarnation, c'est un ange qui annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant. Encore, c'est un ange qui va donner plein d'instructions à Joseph pour protéger la vie de cet enfant. Au désert, lorsque Jésus est tenté, il supporte des tentations. Il nous est dit dans Matthieu 4, au verset 11, que les anges étaient à son service. Les anges, ces serviteurs de Dieu, ont accompagné le ministère du médiateur. Gethsémané, ce temps terrible de la décision, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, un ange vint le fortifier. Et puis vient les heures terribles, les ténèbres à la croix, la mort et les puissances de la mort, c'est maintenant les puissants, l'heure de l'adversaire. Il y a ce temps, cet abandon que le médiateur a connu à notre place. J'insiste là-dessus. Frères et sœurs, amis peut-être qui ne connaissaient pas Dieu, je voudrais vous dire cette chose. C'est Christ qui a été abandonné. Jésus-Christ a été abandonné par son Père. Il n'a cessé d'être Dieu. Et pourtant, il y a un mystère. Il y a un mystère. Acceptons-le. Il a été abandonné pour que les uns et les autres, nous ne le soyons jamais. Frères et sœurs, amis, peut-être toi qui es là, désespéré, qui es là parce que tu ne sais plus où aller. Il ne t'abandonnera jamais. Crois au Fils de Dieu. Crois à Jésus-Christ, vrai homme, Fils de Dieu, ton Sauveur, qui te tend la main ce matin, qui te parle en cet instant. Crois-le, accepte-le. Tu n'auras plus jamais l'abandon. Il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Il a tout accompli. Ce n'est pas une espérance que je t'énonce ce matin. C'est l'œuvre achevée de Christ. Il a tout accompli. Ton péché, tes ornières, ton désespoir, tes envies de suicide. Il est le Seigneur de la vie. Il a vaincu. Il est descendu aux enfers. Les portes de la mort ne prévaudront pas sur son Église, sur ceux qui ont mis leur confiance en lui. Alléluia. Tu n'es pas abandonné. Il sait où tu es. Dans ta fosse, il sait où tu es. Il te tend la main, saisis-la. 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 Il te tend la main ce matin. La résurrection. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais maintenant, Christ est ressuscité, c'est encore les anges qui l'ont annoncé. lorsque Marie retrouve son Seigneur, Rabouni, elles veulent toucher. Jésus lui dit, parole curieuse, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Faisait-il allusion à l'ascension? Je ne le crois pas. Puisque il reverra encore ses disciples, il apparaîtra à plus de 500 personnes à la fois, dont certains sont morts, d'autres étaient encore vivants. Et là, il les a même invités à toucher. Que s'est-il passé entre les deux? Est-il revêtu? Pourquoi est-il remonté? Parce que je pense qu'il est remonté, son Père. Il avait encore, le ciel était ouvert. A-t-il été, comme nous l'indique Hébreu, était présenté en tant que sacrificateur dans ce temple céleste qui n'était pas fait de main d'homme, qu'il a traversé? Était-il présenté l'offrande, puisqu'il était le sacrificateur éternel? Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Est-il présenté le sang de l'offrande pour l'expiation dans le Saint des Saints? Mais c'est son propre sang qu'il est allé présenter. Peut-être. Il était présenté au Père. Ce sacrifice a été agréé. Il est venu nous l'annoncer. Le médiateur a accompli sa médiation. Il est le sacrificateur, il est l'offrande, il est l'autel. Le Père a agréé. Puis, il nous précède en tout, ça nous a été redit. Il est revêtu d'un corps spirituel, d'un corps qui a bien une matérialité, mais un corps spirituel qui est de notre nature que notre corps terrestre, mais qui est bien un corps, ce n'est pas un fantôme. Touchez, voyez, je mange. L'ascension et l'établissement comme autorité suprême à la droite du Père, l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et depuis la Pentecôte. Voilà l'œuvre du médiateur qu'il a pu accomplir parce qu'il était homme, pleinement Dieu. En lui maintenant, nous avons tout. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. La création, c'est vrai, Dieu l'a confiée à l'homme, mais tout est fait pour la gloire de Christ. Et c'est ce que nous célébrerons lorsque nous le verrons face à face. Les résultats pour l'homme de cette médiation, je vais très vite parce que je veux conclure, une pleine réconciliation avec Dieu dont nous pouvons maintenant nous approcher librement. Si j'ai voulu venir sur ce thème, parce que frères et sœurs, nous proclamons des fois un peu vite, mais quand on voit la réalité des vies, est-ce que ces choses sont bien établies? Est-ce que nous sommes bien au bénéfice de l'œuvre que Jésus-Christ, le seul médiateur, le seul nom qui nous a été donné, a accompli? Je le rappelle, ce n'est pas une espérance, ça, c'est à saisir par la foi. Ceci est accompli, il y a 2000 ans, et ça a une valeur éternelle. Nous avons donc une pleine réconciliation avec Dieu, dont nous pouvons nous approcher librement. Une nouvelle identité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La sainteté, Jean-Luc nous a dit, nous sommes saints. Alors, nous développerons ce thème. Nous sommes saints, marcher selon la sainteté. Une nouvelle filiation, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, dit Jean, même si ce que nous sommes ne paraît pas encore complètement, nous sommes enfants de Dieu. Pour la sainteté, je l'ai dit, la sainteté implique de se regarder comme mort au péché et vivant pour lui. Une dimension là que le médiateur a fait une œuvre, et dans les termes de la transaction, c'est que cette vie nouvelle, elle n'est plus pour nous, elle est pour lui. Êtes-vous d'accord? Et puis, cette œuvre nous accorde la vie éternelle. Je voudrais, pour conclure, dire que même dans la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur Jésus, l'agneau, est toujours avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 21, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Comme le Fils dans la main du Père, l'instrument docile qui éclaire le monde. Apocalypse 22:3, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà le médiateur glorieux que nous avons. L'agneau immolé, l'agneau sur son trône. Parfaite humanité, parfaite divinité, aujourd'hui il règne. À la droite du Père. Demain, il viendra régner sur cette terre, frères et sœurs. Préparons-nous à l'accueillir, parce que nous sommes aussi appelés à régner. Parce que nous avons maintenant la communion avec le Père. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Frères et sœurs, pouvons-nous confesser ces choses ce matin? Vous allez dire, cette prédication n'est pas très pratique. Je crois qu'elle l'est. Parce que si ces choses sont établies dans notre cœur, je vous dis une chose, demain, cet après-midi, en levant, vous allez considérer les choses différemment. Nous avons à saisir ces paroles, ces réalités que nous enseignent les Écritures par la foi pour les vivre aujourd'hui. Si le médiateur a réussi sa médiation, alors nous sommes déchargés de la culpabilité de nos péchés. Et ça fait quand même un allègement de la marche. Soyons vigilants. L'ennemi rôde, essayant de nous ramener dans d'autres voies et dans d'autres techniques. Mais à quel autre irions-nous qu'à lui? Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette œuvre parfaite de médiation, Seigneur. Nous t'avions offensé par notre responsabilité, même si nous n'avons pas péché de la même manière qu'Adam, Seigneur. Nous étions séparés. C'est toi, Seigneur, qui as pris l'initiative dans ton conseil divin d'envoyer Jésus-Christ en parfaite humanité, mais aussi ton Fils bien-aimé, celui par qui toute chose a été créée et pour qui sont toutes choses. Merci pour cette œuvre de médiation par laquelle il nous a tous pris en lui pour subir le jugement que méritaient nos péchés. Merci Seigneur que tu l'as ressuscité des morts, que tu l'as fait asseoir à ta droite et qu'il a toute autorité. Merci que nous pouvons être appelés tes enfants et que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Seigneur, que cette œuvre qui est permise maintenant de renouvellement de notre intelligence par l'Esprit Saint que tu as répandu parce que le sacrifice a été agréé puisse opérer en nous. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.